Un livre des livres, le podcast qui va vous faire aimer la littérature sous toutes ses formes. Lectrice, lecteur, autrice, auteur, éditrice, éditeur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du podcast Un livre des livres, un livre des livres, consacré ce coup-ci à la bande dessinée. En janvier dernier, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre au Festival de la bande dessinée de l'image d'Angoulême et de rencontrer des auteurs plus passionnants les uns que les autres. Je tiens à remercier au passage énormément et envoyer de gros bisous à Valentine de Fluide Glacial qui m'a fait confiance et, le hasard faisant bien les choses, grâce à elle j'ai pu rencontrer des tas d'auteurs que je lis et c'était vraiment plaisant de pouvoir passer du temps avec eux, de pouvoir les voir en dédicace et de pouvoir se taper des barres, comme diraient les jeunes, avec eux également parce qu'ils ont vraiment un grand sens de l'humour. Vous allez pouvoir le découvrir dans l'interview qui va suivre consacrée au Petit Théâtre des Opérations, cette série de bandes dessinées dérivées, si on peut dire, de la chaîne YouTube de l'odieux connard Julien Hervieux, est une création originale avec Monsieur le Chien. 4 albums pour l'instant sont disponibles, le tome 4 sort au mois de novembre 2023, j'ai eu la chance de pouvoir le lire en avant-première grâce au site BD Geste, sur lequel il faudrait vraiment que vous alliez faire un tour afin de lire toutes les chroniques écrites par les amis et par moi-même au passage.
Autant promo.
Le principe de cette série de bandes dessinées est très simple mais réellement efficace. Sur un ton décalé mais toujours très documenté, l'odieux connard et Monsieur le Chien vont présenter, ressusciter des héros et des histoires oubliées de toutes les guerres, grandes, petites, moins connues, médiatisées, afin de rendre hommage à tous ces personnages. Et fort est de constater qu'au bout de 4 tomes et d'un spin-off consacré aux femmes, réalisé non pas par Monsieur le Chien, mais par Virginie Augustin, toujours chez Fluide Glacial et qui était sorti pour la journée des droits des femmes, donc le clin d'œil était vraiment sympa, en plus graphiquement ça change, mais c'est toujours aussi bon, les auteurs découvrent toujours et encore des pépites, des héros oubliés, et des situations croquinolesques, comme dirait un certain président. Le mieux pour en parler serait de laisser la parole à Monsieur le Chien et à Julien Hervieux, donc autant le faire. Bonne écoute à vous, et encore tous mes remerciements à Valentine Véron et à toute l'équipe de Audi de Flux Glacial Bambou de m'avoir accueilli si chaleureusement, et bien sûr, d'énormes léchouilles et de grosses caresses à Monsieur le Chien et une solide poignée de main à l'odieux connard. Monsieur le Chien, un odieux connard, bonjour.
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 Vous allez bien?
Très bien et vous?
Ça va impeccable.
Formidable.
Ah oui. Le festival se passe bien?
Pas mal, on a des gens.
Oui.
Monsieur
oui,
le Chien oui. Est réduit à l'état d'esclave comme souvent à enchaîner dédicace sur dédicace, donc c'est plutôt bien.
J'ai des escarres. Ça, donc c'est plutôt bon signe.
Alors, ça me permet, vous me tendez la perche pour la première question que j'avais à vous poser, après la lecture de voilà, vos différents albums. Pas de soucis.
La question était donc...
La question était donc, vous le frappez vraiment, Monsieur le Chien?
Bien sûr que je le frappe, parce que sinon il commence à réclamer de l'argent.
De quoi?
Il est pas au courant à ce sujet. Donc il commence à réclamer plus de granola. Voilà. Donc on est obligé d'être un peu strict avec ce garçon parce que sinon ça dégénère complètement.
C'est une période revendicative là, ce début d'année de toute manière.
C'est ça. Et il commence à dire non à certaines choses. Des fois il veut se lever pour aller aux toilettes. Enfin ça devient n'importe quoi. Donc je le discipline. C'est important.
Il faut.
Ah oui non mais c'est ça. Non mais sinon, où va le monde?
Alors cette collaboration elle remonte à quand?
C'est le mot. C'est le mot. J'ai envie de faire rire.
Ah. Eh bien, 41.
Comme les... Pardon. Non, alors, nous, en fait, on avait déjà travaillé par le passé, parce qu'on communiquait ensemble, on avait eu l'occasion de se croiser. Monsieur le Chien m'avait aimablement invité à faire des choses, entre autres, sur Féréus, hein, sur un épisode bonus. Et puis, on avait même réfléchi à écrire des choses ensemble.
C'est même allé assez loin. Et puis en fait, c'est les aléas du monde de la BD, parce que bon, faut être dans un trou, hein, ni plus ni moins. Et donc, bah, finalement, ça s'était pas fait, je sais plus très bien comment ça s'était enquillé. Mais bon, ça faisait longtemps, en fait, qu'on, si vous me passez l'expression, qu'on se reniflait le cul. Et en fait, bon, il était clair que vu qu'on s'entendait bien au préalable, on échangeait sur divers trucs par internet, machin. Et bon, vous voyez bien que. On avait envie de se fréquenter un peu plus avant. Et donc, bah là, ça a été une occasion formidable. Et puis, c'est d'autant plus formidable que ça se passe très bien.
Voilà, donc Fluide, en fait, était venu après vu la chaîne du Petites Opérations. Alors, il y avait eu plusieurs éditeurs de différentes maisons de chez Bambou qui s'étaient un peu regardé tout ça en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fluide s'est jeté à l'eau. Quand on s'est rencontrés, ils m'ont dit comme dessinateur, on pensait à Monsieur le Chien. Alors, moi, j'ai dit oh, c'est parfait. Donc, non, ça s'est fait naturellement. Et comme le pire, c'est qu'on s'entend bien. Voilà, les deux font la paire, donc on est bien, puisque le chien, sous ses dehors parfaitement innocent de jeune rebelle tchéguevariste, est en réalité un vieux qui aime bien parler d'histoire de France et autres, et d'histoire militaire de manière générale. Donc c'est bien, parce que quand les deux aiment ça, c'est quand même plus simple.
Et l'origine de cette passion pour l'histoire ?
J'ai été prof d'histoire géo, on sait à qui on parle, donc ça, voilà, ça arrive à des gens bien. Et puis non, même, moi j'avais ça avant, c'est-à-dire que bah, c'est comme tout, hein, l'histoire, maintenant je dis c'est un peu comme le vin, c'est un goût qui s'éduque, c'est-à-dire qu'on te fait découvrir, si on te met tout de suite dans le grand bain, c'est très chiant, vraiment, on a tous eu des profs chiants, hein, qui peuvent te dégoûter de la matière, j'en ai eu, et des profs qui font aimer, parce que justement ils vont petit à petit, ils te montrent des trucs un peu rigolos, ou un peu vivants, et puis de fil en aiguille, bon bah voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir des profs comme ça, et voilà, l'histoire en plus, quand on découvre voilà, la mémoire de personnages extraordinaires, on dit putain, ce mec il a existé, mais c'est vachement mieux que dans les films que je regarde, pourquoi on n'en parle pas. Voilà, là c'est bon, on a un boulevard. Et dans le monde de la BD, des personnages extraordinaires, voilà, de l'histoire militaire, c'est pas forcément le sujet qu'on aime le plus aborder, donc on a eu une espèce de boulevard. On s'est dit, bah ouais, nous, on a un truc dont on veut parler. C'est le fameux trou dont tu parlais quelque part, le chien. C'est-à-dire, on est arrivé avec ce projet où les gens ont dit, bah effectivement, il n'y a pas forcément trop de BD qui parlent de ça avec humour. C'est quelque part entre du Fluide glacial et les belles histoires de l'oncle Paul. Donc, bah pourquoi pas. Et puis en route.
Vous parlez de votre chaîne YouTube, qui a été un peu l'origine de ce projet de
bande dessinée.
Qui m'aime beaucoup.
On a même gardé le nom.
Comme ça, ouais, c'est plus simple. Alors, on est bien d'accord, c'est pas une simple transposition. On est bien sur une autre création artistique.
Ouais, alors déjà, c'est parce que c'est deux médias différents. Et que moi, ce que j'aime bien, c'est que chaque média permet d'utiliser des formes différentes. Voilà. Donc, avec la BD, en plus, comme le chien. Souvent, en plus, les gens, ils font remarquer, c'est ça qui est chouette. C'est que le chien rajoute beaucoup de conneries en fond de case. Même moi, j'en redécouvre quand je lis. Et beaucoup de gens le disent moi, j'aime bien chercher les petites conneries qui sont en fond de case et tout. Et ça fonctionne du feu de Dieu, donc ça, voilà. Alors que moi, c'est beaucoup plus dur de le faire. Ça serait quand même beaucoup plus dur de le faire avec des photos, comme c'est le cas pour le petit théâtre, voilà. Mais le petit théâtre, c'est un truc qui peut prendre bien des formes, mais à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. Et là, le format BD, c'est quand même chouette parce qu'on peut vraiment faire des gueules. Moi, je suis obligé de chercher des photos quand je fais des vidéos, donc je dois composer avec les gueules et les scènes que je trouve. Alors que là, on peut se faire plaisir, on peut montrer des choses, on peut décider de faire les Bretons comme faisant 1m20, mais avec des épaules d'1m20 de large, qui sont cubiques et qui pètent la gueule à tout le monde. Voilà. Alors que j'ai du mal à trouver des photos de Bretons cubiques. Par contre, de cubiques Bretons, ça, j'ai pas mal.
Je te prêterai un album de famille.
Du coup, c'est par rapport à l'aspect graphique, du coup, vous évoquiez les photos par rapport à votre chaîne, et vous utilisez ces mêmes supports de travaux que vous déformez, ou alors c'est de la libre imagination?
Alors, c'est dans la vidéo, je suis un auteur de BD et je tiens beaucoup à ça.
Voilà,
ça y est. Désolé.
Il n'a pas pu tenir son côté auteur de BD plus de 2 secondes. Mais quel escroc.
Ah bon, tant pis. Donc autant dire que l'aspect réaliste, historique, tout ça me touche pas du tout. Je veux être un auteur Casterman ou autre totalement complet là-dessus. Non, en effet, il s'avère que pour les mêmes raisons que évoquées tout à l'heure, vis-à-vis du goût de l'histoire, moi que j'ai toujours eu, alors bon, avec mon propre petit cheminement là-dessus, et donc vu que ça m'intéresse, dans la mesure où moi j'y suis confronté pour faire quelque chose dedans, j'essaie d'être le plus sérieux possible. Enfin, je veux dire. Je rajoute donc les bêtises qui étaient évoquées, mais sinon sur les aspects uniformes, tête, matériel et tout, enfin j'essaie vraiment d'être le plus carré possible dans le temps qui m'est imparti et avec les recherches qui me sont possibles. C'est-à-dire que c'est quand même par exemple beaucoup plus facile pour moi d'avoir plein d'infos sur les uniformes et les matériels français que leur équivalent finlandais par exemple, typiquement. J'essaie d'être le plus sérieux possible. Je sais qu'il y a forcément des erreurs, parce que c'est l'uniformologie, quand on y est confronté, c'est très compliqué. Surtout quand on passe de fronts différents, en époques différentes, en armées différentes, et tout ça, et ça change très vite. C'est difficile, mais on a eu quand même des bons échos. On a eu notamment un historien des chasseurs alpins qui nous a félicité pour le sérieux qu'on avait pu mettre là-dedans sous nos dehors poète. Donc ça fait plaisir. Maintenant, je suis parfaitement conscient qu'il y a des erreurs. J'en ai vu après, machin. Mais je fais en sorte de pas me moquer des gens, à l'inverse de certaines BD que j'ai vues, qui notamment ont traité de la guerre d'Indochine en mettant uniquement des soldats avec des fusils américains M16 et des marquages américains. Ce qui est un peu curieux, ça s'appelle la guerre du Vietnam dans ce cas-là, mais bon. Et néanmoins, cette BD-là avait eu toute la presse à genoux, avait eu des cirages de pompes en quantité, alors que pour l'instant, on n'a pas encore eu des mêmes organes de presse, mais ça ne saurait tarder.
Alors, vous évoquiez ce côté de détournement, en fait, c'est-à-dire se moquer tout en respectant une certaine fidélité historique.
Alors, pardon, d'ailleurs, exactement, j'ai oublié de rajouter ça, c'est-à-dire que sur il y a l'aspect j'aime l'histoire et tout, mais en plus, les histoires d'odieux, elles présentent quand même essentiellement, pas que, mais essentiellement des personnages qui, j'avais déjà dit ailleurs, qui nous dépassent de la tête et des épaules. Et à ce titre-là, je considère que c'est le moins que je puisse faire, moi, pauvre dessinateur aujourd'hui qui suis bien au chaud et qui est de la bouffe dans ma gamelle tous les jours, d'être respectueux du truc. C'est-à-dire qu'il met de l'humour, j'en rajoute par un peu derrière et tout, mais c'est jamais pour se moquer de ces gens-là. Enfin, on se moque même pas, on rigole des situations, des machins et tout, mais c'est d'abord pour... en fait, c'est modestement, mais c'est un piédestal pour ces gens-là qui sont assez injustement oubliés, il faut bien le dire.
Justement, par rapport à cet oubli, il y a eu un phénomène intéressant que vous avez relayé également sur vos réseaux sociaux, c'est le fait qu'un groupe de métal,
Sabaton, exactement,
est repris du coup l'un des personnages que vous aviez évoqué dans le tome 3, il me semble.
Et c'est ça, donc Albert Roche, qui était dans le tome 1 même, mais Sabaton, en fait, ça fait plusieurs fois. Ils ont un album qui est dédié justement aux héros des deux guerres, c'est pour ça que ça a été leur thème, de parler de ces héros oubliés. Et ils en ont un paquet, hein, pas que des héros français, justement. Albert Roche était d'ailleurs le premier, ce fait de ma part. Ça fait très plaisir, parce que, alors déjà, il faut quand même pas oublier un élément, c'est que c'est Nota Bene, célèbre youtubeur histoire, qui est venu me chercher, et voilà. Et sans lui, j'aurais pas eu la chance de participer à cette collaboration, donc je le remercie ça serait moche de l'oublier. Et Sabaton, qui fait connaître Albert Roche, enfin moi, l'essentiel, on m'a posé la question ce matin, on m'a dit ça vous dirait pas de collaborer avec Sabaton sur d'autres choses, mais non, mais moi c'est pas la question de collaborer. La question c'est si on a des mecs qui est international, parlent de gens oubliés, c'est tout ce que je demande. Moi je m'en fous qu'il y ait mon nom écrit en bas ou autre, voilà, c'est comme dit le chien, ces gens me dépassent de la tête et des épaules. Je préfère qu'on se souvienne d'eux, qu'on se souvienne du mec qui a signé en bas de la BD en disant regardez, j'ai mis une bague de paix au milieu, c'est rigolo. Donc voilà, là Sabaton a fait ça, c'est chouette, et j'espère que dans des films, dans de la musique, dans d'autres œuvres, on va essayer de se rappeler de héros, et pas seulement hein, de héros français. Hein. Évidemment, moi je joue pour mon équipe, mais voilà, il y a des mecs anglais, belges, américains, tout, partout dans le monde, on peut trouver des gens qui ont fait des trucs où tu dis bah, eux, ça serait bien d'en parler quand même. Surtout à l'heure où on cherche souvent des figures historiques, y compris d'ailleurs dans le milieu BD. Hein. Non, sur tout ça, à l'heure où tout le monde se cherche un peu des héros historiques à en parler, c'est-à-dire en général c'est Rosa Parks et Louise Michel, on n'en sort pas beaucoup. Et tu dis, bah, regardez, je vais parler d'un mec dont, voilà, au lieu de faire un 15e truc sur Rosa Parks, on va peut-être parler d'un personnage dont on n'a pas encore parlé. Donc ce que je disais, on a eu de la chance, et c'est assez fou d'avoir ce boulevard hein, qui nous permet de parler de ces gens-là. Et d'une certaine manière, j'aimerais dire, j'aurais voulu qu'on l'ait pas. et que ces gars-là soient déjà connus et que nous on raconte des BD sur autre chose, c'est que en fait la société irait mieux, l'histoire irait mieux d'une certaine manière, et donc on est presque une anomalie dans l'histoire, c'est-à-dire on est là pour parler de mecs qui ont été injustement oubliés. Donc, je dis pas qu'on rend la justice avec ça, ça serait très prétentieux, mais on est au cœur de ça.
Anomalie peut-être pas, mais en tout cas c'est élargir peut-être le roman national.
Oui, mais surtout qu'en plus tout le monde a ses définitions du roman national. Et là, on a des personnages où vraiment ce que je comprends pas, c'est encore voilà, quand il y a des personnages peuvent être polémiques, je peux comprendre qu'un camp veut s'en emparer, pas l'autre, et inversement, et qu'ils se battent autour. Mais genre un mec comme Albert Roche, je vois mal ce qu'on peut, comment on peut lui chier dans les bottes. Je veux dire, c'est un type. Il y a quand même le Second Reich qui débarque chez nous pour nous casser la gueule. Le gars est volontaire, il y va, il se bat, il fait tout le tatouin, il fait tout, il finit pompier. Je veux dire, quel métier? Il y a quand même dans les métiers nobles, le pompier, ça en fait partie. Hein, c'est risquer sa vie pour sauver les autres. Le mec meurt en plus dans un accident, c'est même pas bon, voilà, ce gars il a tout pour qu'on fasse, on ne le fait pas, bon bah très bien, voilà, et c'est là que je me dis ouais, c'est vraiment injuste pour un mec comme ça, et combien y en a des comme ça, combien?
Alors on va évoquer du coup l'autre passion, on parlait d'histoire, on parlait de bande dessinée maintenant.
Ah, moi je n'en lis pas.
Que des livres sérieux,
c'est ça. Mais vos Mickey pour enfants ne m'intéressent pas.
Votre première rencontre à tous les deux avec la bande dessinée, c'était quand et c'était avec...
Moi, très simplement, c'était avec Tintin, hein, ni plus ni moins. Je me souviens que mes parents m'achetaient ça quand j'avais 4 ans, quelque chose comme ça. Donc je me souviens en tout cas de ne pas arriver à lire les bulles, mais je trouvais ça déjà très très bien. Et j'aime beaucoup Tintin. Et puis après, le parcours classique de toutes les BD qui pouvaient se trouver à l'époque dans les supermarchés. Donc les boulets bides, les tuniques bleues, ce genre de choses. Et puis à l'adolescence, j'ai commencé à rejoindre les boutiques spécialisées où là j'ai découvert tout un tas de choses plus variées. Mais donc j'ai toujours cette affection réelle et admiration. C'est vraiment très bien foutu pour Tintin.
Alors que j'ai un peu le même parcours, c'est-à-dire que je me souviens aussi de moi, c'est des tuniques bleues. Donc je me revois penché sur une page des tuniques bleues, à pas arriver à déchiffrer les bulles, mais à m'acharner pour essayer, parce que j'aimais beaucoup vraiment ce média en soi. Et voilà, ça m'attirait. Et ensuite, mes parents avaient une collection de BD, effectivement, avec pareil du Tintin, Tunique Bleue, Boulet Bill. On reste effectivement sur les classiques et les BD de supermarché qu'on achetait. Voilà. Et j'ai grandi avec ça. Après, je suis pas tombé dans la. Justement, je suis pas allé dans des boutiques spécialisées. J'ai eu la chance d'avoir effectivement des potes qui m'ont passé des BD, qui m'ont permis de continuer et tout. Et le milieu BD, je suis resté finalement un consommateur un peu grand public très longtemps. Après, l'idée de faire une BD, en fait, c'est facile. Si on m'avait dit que je deviendrais un jour scénariste de BD, j'aurais dit, mais.
Non, pas.
C'est ça, exactement. Donc,
j'ai d'autres espérances. C'est,
voilà, j'aimerais avoir une vraie carrière, je ne suis pas un saltimbanque. Donc voilà, c'est. J'aime bien là où on a atterri.
Alors, je suis passé aussi par tous les trucs, les BD qu'il y avait dans les bureaux de tabac et tout. Enfin, tout ça, c'est mélangé quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a typiquement, même si je suis passé par les Boulet Bill, ça m'a beaucoup moins marqué que des trucs que j'ai lus dans les bureaux de tabac qui étaient en noir et blanc, qui venaient d'Italie ou d'Angleterre. Enfin, ce genre de choses. Et même les Strange, enfin, tous les super-héros. Après, on picore et puis il y a tout un tas de trucs qui nous plaisent plus ou moins. Et aujourd'hui, je dois dire que d'ailleurs, je consomme plus volontiers. Alors c'est vrai que, mais c'est valable pour beaucoup de dessinateurs apparemment. C'est vrai que curieusement, je lis plus beaucoup de BD. Quand j'en achète, j'ai noté que c'est quand même plus souvent des BD américaines. Alors pas tant pour le dessin ou quoi, parce qu'il y a plein de très bons techniciens en Europe et tout ça, dont je ne fais pas partie du reste. Mais au niveau des scénarios, je trouve que c'est souvent beaucoup plus intéressant. Déjà parce que c'est beaucoup moins militant, donc à ce titre-là, c'est moins chiant. mais même au-delà de ça, il y a vraiment des trouvailles scénaristiques chez les Américains que je trouve plus intéressantes d'une manière générale.
Et il y aurait un auteur en particulier qui vous a marqué dernièrement?
Alors, dernièrement, non, il y a des trucs de ci, de là. Alors, moi, il y avait un. Chez les Américains, mais ça date déjà, il y a une paire d'années. C'est curieux parce que je m'intéresse beaucoup à la guerre d'Indochine et curieusement quasiment la c'est un peu dur à dire hein, mais quasiment la meilleure BD que j'ai lue sur la guerre d'Indochine, sachant que c'était même pas le sujet de la BD, c'était une BD sur Nick Fury où en fait on le prenait à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale et le scénariste le fait vivre et vieillir jusqu'à nos jours. Et en fait, c'est, à travers son portrait, c'est le portrait de l'Amérique qui se corrompt, en fait. C'est-à-dire que de sauveur du monde, elle devient... Elle avance ses pions en Amérique du Sud, au Vietnam, au machin, au truc. Puis bon, c'est pas très propre. Et ben, c'était très intéressant. C'était, au dessin, c'était Goran Parlov et je crois que c'était Garfenis. C'est Garfenis au scénario, donc le scénariste de The Boys.
Là on commence à causer.
Ouais. Non mais attention, c'est pas toujours vrai parce que The Boys j'ai beaucoup aimé, mais je crois que c'est le même si je ne m'abuse qui a fait Preacher, je crois.
Ah oui Preacher, ouais. Okay.
Et Preacher à l'inverse, pour moi c'était le truc que j'avais trouvé pas mal au début et après ça m'avait assez gavé parce que c'était je vais faire de la BD adulte et pour faire de la BD adulte je vais mettre des choses dans le cul de mes personnages. Et il y a un réalisme au niveau des trucages. Et donc, c'était. Notamment, il y a le perso allemand qui est le méchant, évidemment. Donc, il y avait tout un tas de, comme ça, de clichés un peu bidons que je trouvais extrêmement pénibles. Et notamment, donc, cet allemand se prenait à qui mieux des commodes Ikea dans le cul, des semi-remorques et tout ça. Et on sentait bien que la volonté, c'était de dire je fais de la BD adulte. Ça servait à rien. Il m'avait beaucoup déçu avec ça. Mais sur la BD que j'évoquais de Nick Fury, j'ai trouvé ça d'une intelligence vraiment super. Je me suis un peu étalé, je m'excuse.
Moi, j'ai pas grand chose à rajouter. Hein. Je ne me souviens même plus de la question avec tout ça. C'est terrible.
Oui, j'aurais pu être politicien.
Vous êtes très fort.
Tu sais que ça m'est arrivé une fois. J'ai fait ils avaient recruté des blogueurs BD comme ça pour faire des interviews d'hommes politiques. Et c'était au moment de première élection de Sarkozy, je crois. Ouais, ça devait être ça. Et bon, enfin la seule d'ailleurs. Et, bon, et ils avaient invité André Santini, je sais pas si tu te souviens.
Oui, si.
C'est quand même le vieux renard, tu sais. D'aucuns pourraient dire un peu salope et tout, parce que l'autre c'était un des descendants de Mendès France qui lui posait des questions. Alors, bon, il l'avait un peu retourné, tout ça machin. Puis moi j'étais arrivé avec une question sur l'extrême gauche. Et là il avait été complètement bousculé. Et alors là, comme par hasard, la caméra ne marchait plus. Encore des années après, je me dis, tiens, c'est curieux. Et parce que là, je l'avais déstabilisé. Et le coup d'après, évidemment, quand la caméra, ils ont retrouvé une batterie et tout. Et là, évidemment, Santini avait repris ça. Eh bien, je vous remercie de la question que vous m'avez posée. Et alors, je te mens pas sur ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il pose la question et je me suis retrouvé dans le sketch de Coluche. C'est-à-dire qu'on arrive sur une question sur l'extrême gauche en France. Et à la fin, on arrivait sur les genoux écorchés des petits-enfants d'ici les Moulineaux dans les aires de jeu. Je me suis dit, waouh, là on a fait le très grand tour.
Très beau tir, très beau lob.
Là c'est la croisière jaune, la croisière noire et puis voyage de la Terre à la Lune. Quoi. Je me suis dit, waouh, le mec, trop bien, bravo. Donc j'ai laissé tomber, je savais que j'aurais pas de réponse. Voilà, c'est la petite anecdote.
Alors à propos d'anecdote, parce que dans vos albums, c'est vraiment la D, si on peut dire, transmission d'anecdotes sur des personnages qui mériteraient d'être davantage connus d'un public plus large, d'un grand public. Dans ces anecdotes-là, pour lesquelles vous avez pris le plus de plaisir à découvrir ?
À découvrir, en fait, ça dépend parce que moi, personnellement, je ne les ai pas toutes découvertes au même moment. Il y a vraiment un vrai plaisir à découvrir un nouveau truc et à se dire, oh putain, ça fait une bonne histoire. Tu vois, genre, je vais prendre l'exemple du tome 3 et le Jules Verne, où grosso modo, on me dit juste, est-ce que vous savez que le premier bombardement sur Berlin, ça a été un avion civil français utilisé par des marins ? Je dis, ouais, ok, bon, reste à trouver le côté un peu peut-être épique ou chantant de l'affaire. Parce qu'en fait, on peut faire un truc absolument héroïque. Des fois, c'est tellement héroïque que ça va pas dans le petit théâtre parce qu'il n'y a pas d'aspect drôle. Le mec fait juste un truc extraordinaire, sacrificiel, enfin bref. Et là, je tombe sur le journal du pilote et je le lis. Et en fait, il y avait des conneries à chaque page. Je me dis, ah, c'est trop bien et tout. Qu'il va saluer sa mère avec son avion en mission secrète. Ça n'a même pas pu le mettre dans la BD. Que voilà, le mec, il part pour Berlin, ils sont mis sur ultra secrète. Il dit, non, mais sur le chemin, il y a ma mère. Est-ce qu'on peut tourner autour de la maison avec l'avion pour que je lui fasse coucou? Les mecs, voilà, avec l'équivalent d'un Airbus actuel, ils tournent à 50 mètres du sol. Alors, coucou, maman! Avec sous les trucs, des bombes avec des bits destinés à Hitler dessinés dessus, etc. Voilà, exactement. Et après, les mecs, ils larguent leur grolle sur Berlin avec le... Voilà, c'est bon, tu dis... Là, c'est parfait parce que de fil en aiguille, tu t'enfonces, il y a toujours plus de trucs, tu dis, ok, ça, c'est un plaisir. Mais chaque histoire en soi, tu te dis, ah putain, il y a quand même des choses à faire. Donc, non, c'est bien. C'est bien, il y a vraiment plein de choses.
Moi, c'est, enfin, tout me plaît parce que j'adore ces personnages. C'est gourmand, en fait. Je me dis, putain, mais c'est tellement bien de pouvoir donner vie à ces gens-là, justement pour la raison évoquée précédemment, que personne s'en est emparé, notamment en film, enfin, des trucs comme ça. Et après, je reviens sur une question précédente. Moi, une des façons par lesquelles je suis entré dans l'histoire, c'est qu'à l'époque, dans mon grand âge, hein, on parle du XXe siècle, il y avait ce qu'on appelait des encyclopédies. C'est des sortes de gros dictionnaires compliqués. Et...
ça a l'air mystérieux.
Et souvent, les photos étaient en noir et blanc. Hein. On avait beaucoup de mal à se caresser dessus. Et alors, ce qui me plaisait bien, moi, il y avait deux choses. C'était quand je trouvais un mot que je trouvais compliqué et intéressant. Et, par exemple, hybristophile. Je me disais, oh, et donc j'aimais bien apprendre ce genre de mots. Mais ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'il y avait tout un tas de bios de personnages historiques, et notamment de personnages napoléoniens et tout. Évidemment, bah, les mecs, quand il y a leur bio, ils croisent d'autres types qui sont importants aussi. Et donc après, hop, j'allais voir ceux-là. C'était passionnant. Et là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression de pouvoir les... C'est pas le cas, d'ailleurs, de les animer moi-même et tout. C'est vraiment super. Puis après, bah, ça me pose des questions. C'est-à-dire que, par exemple... sur Léo Major, tout le monde retient l'histoire qui libère la ville. Alors évidemment, hein, je vais pas vous mentir, ça m'impressionne un peu aussi quand même, mais enfin je suis sûr que j'aurais pu le faire, mais par contre, le truc qui me dit il va falloir que je me renseigne, je vais pas pouvoir rester comme ça, c'est sur la seconde partie où en Corée, où le mec, tout seul, en prenant une demi-douzaine de ses potes, il repousse, je sais plus, 7 ou 9 assauts successifs de 14 000 Chinois. Et là, je me dis, normalement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, machin. Et donc, ça, j'ai envie de lire des trucs. Donc, je sais qu'à un moment ou un autre, je vais aller dans des librairies québécoises ou quoi. Enfin, il y a ce qu'il faut à Paris. Et voir s'il n'y a pas des documents sur ce genre de mec ou quoi. Parce que c'est... Voilà, il y a ce genre de gourmandise, mais c'est valable pour tout, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, la Shiman Gurung qui m'a fait découvrir, on a envie de fouiller après dans les gurkhas, quoi. On est en disant, putain, c'est vrai que quand même, ces salauds d'anglais, ils ont trouvé un bon spot, là, pour des mecs valables et tout.
vous deviez encore changer de support. Donc, on a eu la chaîne de blog, la chaîne YouTube, la bande dessinée. Et si vous deviez encore collaborer tous les deux, est-ce qu'il y aurait un autre média ?
Le train.
Alors, on parlera de Transportsman, qui est la BD qu'on ne pourra jamais éditer, qui est notre aventure commune, puisque j'ai une schkoumoune des trains absolument légendaire, qui fait qu'on vit des aventures où à chaque fois il grimpe dans le train avec moi, en raison d'un problème sur la ligne du machin, il n'y aura pas d'électricité, en raison d'un problème, le train aura 10 minutes de retard, en raison d'un problème.
Putain. Là, ça a l'air drôle, mais en vrai, c'est pas très drôle. Quand on est à côté, c'est un.
j'en fais
bon,
des
bah maintenant, t'arrêtes, hein.
Donc, on a tous tes trucs, ce sera Peter Parker, journée de ta libération. Mais personne ne sait. On fait des photos Transportsman, parquet. Transportsman est dans ce TER, champagne Ardenne, allez-y. Donc, sur les autres formes, il y a déjà un autre format qui existe, alors qui n'est pas avec le chien, parce que là, à part servir d'estrade, le pauvre ne servirait pas à grand-chose. Ou alors, pour illustrer les choses, certes, c'est les conférences, parce que ça a aussi commencé en partie comme ça. Donc, c'est des conférences que je fais, on s'est dit, putain, en fait, on pourrait monter sur scène et faire un petit truc, ou en fait, plutôt que d'écouter une heure et demie de. Et vous savez pas, ma femme, l'autre jour. Bah, bref, voilà, les blagues ou sur ça y est, je viens de devenir papa, donc je fais un sketch sur le fait que je suis devenu papa. Hein, c'est le cycle des humoristes, quand ils deviennent parents, ils font le sketch de la maturité, le spectacle de la maturité, c'est là où ils te parlent de mon enfant, il fait caca et ça sent mauvais. Voilà, bon, c'est. Bon, donc moi je me dis pourquoi pas parler plutôt d'une heure et demie de raconter des anecdotes débiles. Et là où Monsieur le Chien pourrait collaborer, c'est, Dieu sait, si on avait un truc animé, si demain quelqu'un nous dit, ben voilà, on décide de prendre les dessins de ce salopard de Monsieur le Chien et de mettre des bâtons dedans et de les bouger pour faire quelque chose d'animé. Pourquoi pas ? Monsieur le Chien à la télé à midi des zouzous, moi je dis oui.
Ouais, c'est vrai que ce serait bien.
Voilà, donc on attend.
Messieurs, merci beaucoup.
Ah bah,
avec plaisir.
Merci à vous.